La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur. Nous sommes rassemblés ce matin dans ce lieu avec un bel événement, puisque nous allons pouvoir partager ce moment extraordinaire qu'est un baptême. Et donc nous accueillons la famille du petit baptisé ce matin, la famille Stélé. Merci d'être là avec nous et d'avoir choisi cette maison pour demander cet acte si important pour votre fils. Nous sommes rassemblés aussi ce matin dans le temps de l'Avent et nous allons pouvoir reprendre ensemble ces textes si connus et en même temps si énigmatiques que sont les textes de nativité dans les évangiles. Je vous invite à la prière pour nous rassembler ensemble. Père, bénis ce temps. Permets que nous soyons à ton écoute, à l'écoute d'une parole qui se laisse comprendre au milieu des témoignages anciens. Donne-nous, Seigneur, dans ce temps d'attente de Noël, la possibilité d'attendre comme une gestation, un monde nouveau, une vie nouvelle, un temps nouveau pour nous. Seigneur, nous te remettons tous nos soucis, tout ce qui nous charge avant d'arriver ici, nous le déposons devant toi et nous te demandons, Seigneur, de nous rassembler dans la communion fraternelle. Amen. Et nous pouvons chanter le premier chant « Réjouissons-nous au Seigneur ». Et vous avez ça dans le début des psautiers, dans le début des recueils de psaumes. Nous louons le Seigneur avec Marie qui, dans l'évangile de Luc, magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui l'honorent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Nous louons Dieu comme un peuple fidèle avec le 101 dans les louanges et prières.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté du Seigneur. Le psalmiste chante « Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » Que cette prière du psalmiste nous accompagne pour que nous sachions remettre à Dieu tous nos efforts dans notre vie. Chantons ensemble. Comme le fils de la parabole, nous pouvons dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Nous nous présentons devant le Seigneur et nous lui disons ces mots pour nous-mêmes. Seigneur, nous te présentons notre vie et ce qui nous sépare de toi. Pardonne-nous, renouvelle ta grâce sur nous et viens à notre rencontre comme le Père est venu à la rencontre du Fils prodigue et reprends, Seigneur, ce qui en nous s'était égaré loin de toi. Le Seigneur redit sa grâce et le psalmiste nous dit « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, il ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui place sa confiance en lui. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils est la tendresse du Seigneur pour qui place sa confiance en lui. » Je vous invite à vous lever pour chanter votre reconnaissance à ce Dieu qui fait grâce. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans ce temps de la liturgie du baptême. Et je vais d'abord accueillir les parents du petit baptisé qui sont venus jusqu'à nous avec les parrains et marraines. Chers amis, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi. Et je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi devant ce petit garçon qui va recevoir le baptême. Dieu, nous le cherchons sans jamais le trouver. Quand nous nous adressons à lui, nous espérons qu'il nous entend, mais nous n'en savons rien. On nous a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Nous voudrions le croire, mais ce sont des hommes qui nous ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, nous croyons que nous ne sommes pas seuls, qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Chantons ensemble. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entendre ensemble comment est institué le baptême pour notre Église. Et je vous invite à préparer vos cantiques, les louanges et prières au 204, car nous pourrons chanter ensemble pour ce petit garçon et pour son baptême. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée, dit-il, dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, votre enfant va être baptisé au nom du Père qui lui donne le souffle de vie. Il va être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, qu'il appellera à son service. Il va être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui fera naître, c'est notre espérance, en lui la foi, l'espérance et l'amour. Il y a de l'eau ici, qui est de l'eau tout ordinaire, de l'eau qui peut servir à toutes sortes de choses, et notamment à s'occuper de laver les mains d'un petit enfant, à faire pousser une fleur. Mais avec la parole de Dieu, cette eau tout ordinaire devient parole du sacrement, parole d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, Notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos tout-petits, quand bien même ils ne le comprendraient pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous invite à être témoin de ce baptême. Alors, je sais que c'est difficile quand on se lève de voir jusqu'au bout de l'assemblée le baptême lui-même. Donc, je vais vous laisser rester assis si vous le souhaitez. Mais en revanche, soyez dans vos cœurs tous témoins de ce baptême que nous partageons aujourd'hui. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui. Il nous connaît chacun par notre nom. Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ?
Victor.
Je vais maintenant procéder à ton baptême. Est-ce que tu es d'accord ? Oui ? Bon. Alors, on y va. Venez. Peut-être que ta grande sœur peut venir près de moi, là, par là. Viens, viens avec moi. Voilà. Voilà. Il n'y a rien de grave. Victor, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Et je vais inviter ma collègue à venir me rejoindre pour imposer les mains avec moi. Parce que tu vois, dans cette église, c'est extraordinaire. Tu as deux pasteurs pour le prix d'un. C'est extraordinaire, hein ? Victor, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vous invite à chanter ensemble « Seigneur, dirige et sanctifie ». Voilà, je vous invite à vous asseoir et à entendre les engagements que les parents, parrains et marraines de Victor vont prendre pour lui à présent.
Victor, tu reçois aujourd'hui le baptême. C'est à la fois un symbole de l'amour gratuit de Dieu et de ton entrée dans l'Église. Nous souhaitons t'offrir cette chance de recevoir une éducation chrétienne, protestante, qui te donnera les clés pour comprendre le monde. C'est un don de Dieu que tu reçois aujourd'hui. Tu seras libre de le faire fructifier de telle sorte qu'il te corresponde le mieux, et cela tout au long de ta vie. Comme le dit Paul dans le premier épître aux Corinthiens, il y a un même esprit et diversité de dons, l'esprit de Dieu qui se développe dans chacun de manière personnelle.
Cher Victor, tu es au début d'une belle histoire qui te réservera des surprises, du bonheur, des joies, mais aussi parfois des imprévus et des difficultés. Victor, je m'engage aujourd'hui à être une oreille attentive à tes récits et questions, et j'espère avoir le privilège de partager avec toi beaucoup de grands moments.
Aujourd'hui, Victor, tu reçois le baptême, signe de la grâce de Dieu. Tes parents m'ont demandé d'être ta marraine en plus d'être ta tante. J'ai de la chance, j'ai moi-même une tante marraine, et c'est un lien très particulier, tu verras, et je suis très heureuse d'avoir cette chance de pouvoir construire ça avec toi. Une marraine, c'est une personne de plus pour t'accompagner dans ta vie, un autre adulte présent pour toi, pour les moments heureux et les moments qui le sont moins, les moments de questionnement, et en particulier les questionnements spirituels. Bon, c'est pas simple, hein, les questionnements spirituels. Alors, parler de guide serait un peu prétentieux, je crois, en tout cas dans le sens où je connaîtrais le chemin. En tout cas, ce dont je suis capable, c'est d'essayer de réfléchir avec toi, de t'écouter, dialoguer, de te conseiller lorsque tu en auras peut-être besoin ou l'envie. Peut-être te contredire, on verra bien. Je ne sais pas encore ça consistera, on cherchera, et Dieu nous aidera, bien sûr.
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre engagement avec Victor. Est-ce que tu veux venir avec moi? Tu sais, je suis une maman. J'ai porté quelques petits-enfants comme ça, d'abord ma fille, et puis ensuite d'autres enfants qu'on m'avait confiés. Et je suis très heureuse de t'emmener dans cette assemblée. Voilà, pour te présenter à tous ces gens qui sont là et qui sont venus avec la joie de savoir qu'ils allaient partager ce moment avec toi. Alors, frères et sœurs, voici Victor. Il est ici chez lui. Il est votre petit frère dans la famille de Jésus-Christ. Il est dans ce lieu avec votre prière et votre soutien. Vous affirmerez, si jamais il venait à se séparer de la communauté des chrétiens, qu'il peut toujours retrouver sa place dans l'Église. Ce sera ainsi pour lui la marque d'un amour inconditionnel de Dieu qui ne s'éteint jamais. Et nous aurons la joie, peut-être un jour, d'entendre, Victor, ta propre confession de foi dans cette Église ou dans une autre Église, mais en tout cas, peut-être qu'un jour, ce sera toi qui diras comment tu crois en Dieu. Oui, peut-être ?
Oui.
Oui. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Victor. Voilà, je vous invite à regagner vos places et puis nous allons continuer ce temps de culte. Avec la lecture de l'Évangile.
Ce matin, nous lirons dans l'Évangile selon Luc. Dans le chapitre 1, à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouissez-vous, réjouis-toi, pardon, toi qui es comblée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole,
elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Béni sois-tu entre les femmes !» et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Voilà, je vous invite maintenant à chanter ensemble le psaume, le psaume 91. Non, je me trompe. C'est ça? Oui, le psaume 91, les strophes 1, 4 et 5. Je vous invite à la prière. Et nous prions avec Nicolas Malebranche. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien. Viens à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Dans l'évangile de Luc, l'annonciation est faite à Marie, alors que dans Matthieu, c'est à Joseph. On dit d'elle qu'elle est vierge. Et ici, aucune ambiguïté avec les mots. Nous n'allons pas jouer sur les mots. Ce n'est pas le terme de jeune fille qui est employé, mais bien celui de vierge, parthénone. On sait d'elle qu'elle est fiancée à un homme, Joseph, et qu'il est de la maison de David. Gabriel entre chez elle. Terrible image de ce personnage surnaturel qui entre chez une jeune femme que l'on vient de définir par sa virginité. C'est presque un coup de force. Immédiatement, tous les signes de la transgression de l'intime sont là. D'ailleurs, Marie a peur. Et Gabriel, en bon ange qu'il est, rassure Marie. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dans la légende dorée de Jacques de Voragine, il est écrit « C'est le propre des bons anges, selon la glose, de consoler à l'instant, par une bénigne exhortation, ceux qui s'effraient en les voyant. » Il poursuit en décrivant les mauvais anges qui, eux, se font encore plus horribles pour faire encore plus peur à ceux qui s'effraient. En tout cas, Gabriel ici fait le bon ange. Pourtant, la suite n'est pas plus rassurante pour la Vierge qui l'entend. Tu vas être enceinte. Littéralement, en grec, ton ventre va devenir une enceinte. Comment la femme vierge ne serait-elle pas effrayée par une telle annonce? Le récit de cette intrusion dans l'intimité de Marie nous oblige à ne pas minorer sa virginité. En bon rationaliste, nous disons qu'il est impossible qu'une vierge soit enceinte. Même la légende dorée ne suffira pas à contrer cette évidence. Voici ce qu'on peut y lire. Au moment de l'enfantement, Joseph, qui ne doutait pas au reste que Dieu dût naître d'une vierge, appela, selon la coutume de son pays, deux sages-femmes qui s'appelaient l'une Zébel et l'autre Salomé. Zébel, en examinant Marie avec soin et intention, la trouva vierge. « Une vierge à enfanter !» s'écria-t-elle. Salomé, qui n'en croyait rien, voulut en avoir la preuve, comme Zébel, mais sa main se dessécha aussitôt. Cependant, un ange qui lui apparut lui fit toucher l'enfant, et elle fut guérie tout de suite. En bon lecteur et interprète, il faut bien prendre au sérieux le motif de la virginité tellement mis en avant dans le récit de Luc. Luc n'était pas plus ignare que nous en gynécologie, sans doute. On dit même qu'il était médecin. Il devait bien savoir qu'une vierge n'enfantait pas. Alors pourquoi insister à ce point sur une chose impossible ? L'interprétation classique consiste à convoquer la prophétie d'Ésaïe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom d'Immanuel. C'est donc dans Ésaïe 7. Cette prophétie est un signe de Dieu qui doit annoncer le salut d'Israël. Les rédacteurs de l'évangile de Luc auraient donc fait coïncider la promesse du signe avec le récit de la naissance de Jésus, quitte à user du merveilleux pour accréditer le statut de Messie de Jésus. On pourrait s'en tenir à cette version et refermer l'évangile de Luc en croyant avoir tout compris de la machine à homologuer que représente la rédaction des récits de nativité. Mais dans le merveilleux, la vérité se laisse parfois mieux comprendre que dans les récits les plus logiques. Et c'est un savoir plus profond sur l'homme et sur sa foi que nous pouvons atteindre en lisant, pourtant, des choses parfaitement impossibles. Qu'on les lise dans les évangiles ou dans la légende dorée, les récits sont écrits à l'encre des merveilles. Et c'est justement là que nous pouvons trouver la trace la plus profonde de la foi de ceux qui les ont écrits, bien conscients que c'était impossible, mais bien conscients aussi que le lecteur y trouverait aussi son miel. Pour comprendre la portée de ce motif de la Vierge qui enfante, il est bon de regarder comment, à d'autres époques, d'autres croyants ont compris ce motif. Et c'est par les arts experts du merveilleux que je vous invite à faire un détour, la poésie et la peinture. C'est d'abord dans la poésie médiévale qu'apparaît d'une façon originale de parler de Marie comme une vierge qui enfante. En effet, c'est là que surgit la métaphore du jardin clos. En reprenant le verset biblique du Cantique des Cantiques, « Tu es un jardin clos, ô mariée, ma sœur, ma fontaine, une fontaine close, une source scellée. Tes pousses sont un verger de grenadiers aux fruits exquis. » Voilà dans le chapitre 4 ce qu'il est écrit au Cantique des Cantiques. Les poètes vont comparer Marie à ce jardin clos, hortus conclusus. Puis les peintres déploieront des talents extraordinaires pour représenter des annonciations dans des jardins clos de palissades de bois ou de murs parfois crénelés comme des forteresses. Fra Angelico, par exemple, représente la Vierge assise sous un portique à colonnes de pierre dans un jardin clos, et derrière elle, une fenêtre fermée de gris insiste sur le thème de la clôture. Cette image du jardin clos résonne des mots du récit du jardin d'Éden, bien sûr. Et comme si Marie reprenait en son sein la misère de tous les descendants d'Adam, c'est l'histoire du péché et avec elle celle du salut de Dieu qui résonne dans cette métaphore du jardin clos. La virginité de Marie n'est pas une image de la morale au secours de la transgression. Il ne s'agit pas là de faire de Marie une femme morale. La virginité de Marie nous fait entrer dans l'intimité d'une foi affrontée aux choses impossibles, soit impossible parce que tellement inattendue et improbable, soit impossible parce que tellement inacceptable. Derrière l'impossible merveilleux d'une vierge qui enfante, se profile l'impossible affront bien réel, celui-là, d'être mère alors même que l'on est promise vierge à un époux. Quand la femme stérile enfante, enfin, dans les récits bibliques, ce sont les lois de la nature qui semblent transgresser. Le problème n'est pas tout à fait le même. L'honneur d'être mère est donné à la femme qui était vue comme incapable d'enfanter et donc mal considérée socialement. La femme stérile qui devient mère, c'est un miracle, un rétablissement, une joie. Mais quand c'est une vierge qui enfante, une fiancée qui devait arriver vierge à son mariage, ce sont les lois morales qui sont transgressées. Et il ne s'agit pas tant d'un miracle que d'un problème et même d'un tabou. Où cette femme trouvera-t-elle à nouveau son honneur? Comment sera-t-elle considérée par son futur époux, ceux de sa parenté, de son pays, de sa religion? Qui croira qu'il s'agit d'un signe de Dieu comme l'annonçait Ésaïe? N'est-elle pas simplement fautive et pécheresse aux yeux des hommes? Imaginez la solitude de Marie à cette annonce. Considérer le ventre de Marie comme un jardin clos pourrait être une façon de vouloir de la pureté là où l'engendrement la rend impossible. Mais cela peut être aussi une façon de vouloir rendre saint le profane. Ce qui, avant le Christ, était de l'ordre de la faute et du péché, devient avec lui racheté, sauvé, repris, accepté. Avec la naissance du Sauveur, la première sauvée est cette enceinte de jardin que personne n'a le droit de juger, cette forteresse que Dieu s'est choisie et où le fruit de la foi mûrit lentement. Le ventre de Marie devient le Saint des Saints, non pas pour un Dieu, mais pour l'humanité. Et si la foi de Marie était précisément ce qui est enfermé dans la clôture de son ventre? Et si la foi pouvait sauver la souillure d'être enceinte alors qu'elle devait être vierge? Contre toute convention sociale, contre toute attente de sa part, Marie apprend que c'est une bonne nouvelle d'être enceinte alors qu'elle est considérée comme vierge. La malédiction prononcée contre Ève n'est plus. L'engendrement devient promesse, grâce et bénédiction. La grâce de Dieu vient sauver la génération. Dans le jardin clos, le secret de Marie est protégé et personne ne peut l'atteindre. C'est une affaire entre Dieu et elle. En ce sens, l'histoire des deux sages-femmes de la légende dorée est juste. La sage-femme qui a douté de la virginité de Marie et qui voulait prouver le contraire a eu sa leçon. Le jardin clos de la foi intime ne se transgresse pas par des demandes de justification et de preuves. Il faut croire que cela est possible à celui qui croit. Il faut simplement croire. La guérison de la main sèche achèvera de convaincre la sage-femme sceptique. Il ne s'agit pas de savoir si la grossesse de Marie est possible. Il s'agit de croire que cette vierge, devenue mère, est sauvée. Comme si les deux motifs devaient se rapprocher pour être mieux compris, la vierge enceinte court rencontrer la femme stérile. Marie court chez Élisabeth. Comme si la nouvelle alliance allait chercher son accomplissement dans le témoignage de l'ancienne alliance. Marie va chez celle qui représente toutes les femmes stériles qui ont pourtant accouché. De Sarah à Élisabeth en passant par Rachel, Marie entre chez Zacharie, dont le nom veut dire « Dieu s'est souvenu » et fait mémoire du serment entre un peuple qui a besoin de libération et son Dieu libérateur. Élisabeth est le prénom d'une femme de la Bible que l'on trouve dans le Premier Testament. La femme d'Aaron s'appelle Élisabeth. Élisabeth veut dire « Dieu est mon serment ». Elle représente une nouvelle ère pour le service de Dieu, car elle mettra au monde un prophète, trahira pas le Dieu qu'il sert. Les fils de la première Élisabeth s'étaient mal comportés dans leur manière de servir Dieu. Deux d'entre eux étaient morts avant leurs parents, terrible malédiction pour Aaron. Le fils d'Élisabeth que va voir Marie, lui, sera le Baptiste, un homme intègre et juste devant les hommes et devant Dieu. Sa fin sera cruelle à lui aussi, mais il sera le serviteur que Dieu attendait pour annoncer son salut. Élisabeth est donc une autre figure du salut. Elle représente une nouvelle prêtrise qui sera prophétique cette fois. Quand les deux femmes se rejoignent et que, en leur sein, les nouveaux Moïse et Aaron sont en gestation, le ventre d'Élisabeth tressaille de joie. Jean Chrysostome écrit « Jésus-Christ fit saluer Élisabeth par Marie afin que sa parole sortît du sein de sa mère, séjour du Seigneur, et reçue par l'ouïe d'Élisabeth, descendit jusqu'à Jean qui, ainsi, serait sacré prophète. » Il y a donc un message qui traverse le corps d'Élisabeth grâce à Marie qui vient la saluer. Et ce message va arriver jusqu'à Jean le Baptiste, prophète avant sa naissance. Jean le Baptiste est en communication avec son Sauveur avant même de voir le jour. Au travers de la palissade de leur jardin clos respectif, les deux fœtus se reconnaissent l'un l'autre, comme dans une prophétie intra-utérine, comme si le monde nouveau était en gestation et que ces deux petits hommes l'annonçaient en bougeant dans le ventre de leur mère. Avant même d'exister pour le monde, ils existent comme monde, un monde nouveau, où la mort est dépassée, où la naissance même est dépassée par le temps prophétique, car ils existent avant leur existence pratiquement. Par l'annonce du salut, le temps tout à coup est immense, éternel. Ils sont plus grands qu'eux-mêmes. Ils existent avant eux-mêmes, préfigurant ainsi qu'ils existeront aussi après leur mort et qu'aucun tombeau ne pourra les enfermer dans la clôture de la mort. Dans ce tressaillement de joie se trouve la vie éternelle. Entre les deux mères à l'épreuve d'un réel qui ne se laisse pas enfermer dans la loi morale, une connivence se crée. Elles se réjouissent ensemble. Elles ne sont plus soumises à la fatalité du destin. Elles écriront leur histoire du salut en donnant naissance à 6 mois d'intervalle à 2 enfants qui changeront le monde dans lequel ils vont naître. Dans l'intimité de ces deux gestations, la même foi anime la vie. Une foi en un salut qui nous sauve de la condamnation, de la faute irréparable, de l'indignité et de la honte. Le souffle saint qui engendre ces deux êtres qui communiquent ensemble renoue sous la plume de Luc avec le souffle créateur du Dieu de la vie. Avec lui, chacun peut traverser sa propre mer rouge, son chemin de libération, et être libéré des esclavages conventionnels. Avec ce Dieu de la vie, chacun peut donner une signification au réel qui met sa vie à l'épreuve, en faire un signe de salut de Dieu, le raconter comme une bénédiction, même si les autres se moquent de lui ou le condamnent. Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle attend un enfant hors mariage. Extraordinaire, non? Elle est la Vierge qui enfante. Ce n'est plus sa faute, c'est son histoire. Et Élisabeth est dans la joie profonde d'une femme qui enfante après avoir vécu dans la honte que son époque faisait peser sur les femmes stériles. Elle n'est plus la vieille femme dont la maternité fait rire. Elle est la mère d'un prophète. Rien n'est impossible à Dieu. Il faudra bien s'y faire. Dans son traité intitulé « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?», Anselme de Cantorbéry écrit à propos de Marie « Dieu peut créer l'homme de quatre manières, sans homme ni femme, comme il a créé Adam, d'un homme sans femme, comme il a créé Ève, d'un homme et d'une femme, comme d'habitude, d'une femme sans homme, comme cela s'est opéré merveilleusement aujourd'hui. » Quand on sait combien les questions de gestation soulèvent encore aujourd'hui de condamnations morales, il est intéressant de se demander toujours où est le Dieu sauveur dans ces histoires ? Dans quel ventre prépare-t-il le monde de demain ? De quels parents naîtront les sauveurs qu'il appelle ? Comment cela se produira-t-il ? Demandait naïvement Marie. Il y a peut-être une cinquième manière divine pour créer un homme, sans vouloir me mesurer à Anselme de Canterbury. En l'adoptant comme fils et en l'aimant inconditionnellement, comme il est annoncé dans le baptême, c'est peut-être là que sont créés les hommes de Dieu. C'est peut-être cet amour sans jugement qui sauvera notre humanité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique de Marie, le 88 dans les louanges et prières. Voilà, je vous invite à vous asseoir.
Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je voudrais annoncer deux cultes de consolation qui auront lieu la semaine prochaine. Tout d'abord, le lundi 23 décembre, c'est-à-dire demain à 11h, il y aura un culte d'action de grâce pour la vie de Madame Francine Wickham. Et le second service aura lieu le jeudi 26 décembre à 10h30, pour rendre grâce à la vie de Monsieur Daniel Cuvier.
Merci Agnès. Je prends la suite pour les annonces. Remercier notre pasteur Béatrice Cléromazir pour cette prédication qui nous indique une voie du salut et de lumière autour de Marie, qui est une figure effectivement pas toujours évidente à comprendre. Merci à Sarah Kim qui nous accompagne à l'orgue. Aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que les bancs de l'entraide sont vides. Toute l'équipe de l'entraide est aux 4 pour préparer le repas du CASP qui accueille toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement et de présence pour la fête de Noël. Ce jour donc du 22 décembre est suivi pour le 24 décembre du culte de veillée à 19h qui va être fait par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Et il sera suivi d'un verre de l'amitié et ce sera la même chose pour le culte de Noël qui sera à 10h30 et qui sera présidé par notre pasteur Béatrice Cléromazir et il y aura la Sainte Cène. Et je vous annonce aussi le 29 décembre, un culte à 10h30 avec Bernard Cotteret, qui est un historien de la réforme anglaise. Vous avez remarqué que nos activités étaient un peu limitées. Si, pendant ces périodes de vacances et de fêtes, si vous voulez avoir des renseignements sur la suite, n'hésitez pas à consulter le site. Et puis, il y a aussi la feuille rose. Je vais passer la parole à Christiane Hureau, qui a quelque chose à nous dire à propos du Noël aux Halles.
Bonjour, je viens vous parler du Noël aux Halles, vous ne connaissez peut-être pas, mais dans la feuille rose, vous lirez ce que c'est, le Noël aux Halles. Mardi, c'est-à-dire après-demain, nous allons recevoir dans la maison presbytérale à peu près 130 personnes âgées qui souffrent de solitude dans le quartier du 1er, 2e et 3e arrondissement. Elles auront un thé avec une animation et elles repartiront avec un colis. Mais certaines personnes ne peuvent pas se déplacer ou bien elles sont trop malades ou en tout cas handicapées. Donc j'aurai besoin de quelques personnes qui accepteraient de venir après-demain le 24, à 14h, à la maison presbytérale, pour porter ces paquets aux quelques personnes qui ne peuvent pas venir. Je pense que l'après-midi suffit largement, si nous sommes assez nombreux pour pouvoir le faire. Merci beaucoup.
Merci Christiane. J'espère que quelques personnes pourront répondre à cet appel. Et maintenant, je vous demande. Oui,
c'est toi. C'est maintenant le moment de l'offrande. Alors, vous avez sûrement trouvé dans vos cantiques une enveloppe pour l'offrande de Noël. Peut-être ne le savez-vous pas, mais notre Église ne vit que de dons, les vôtres. Grâce à votre geste, nous pouvons honorer tous les engagements financiers auxquels nous devons faire face. Grâce à votre don, nous pouvons rester une église ouverte pour accueillir et accompagner toute personne qui le souhaitent, comme nous le faisons toute cette semaine en particulier. Et aussi, grâce à votre participation, nous pouvons continuer d'annoncer l'Évangile librement, tout en restant solidaires des plus démunis. Alors, frères et sœurs, que chacun donne avec joie, sans regret ni contrainte.
Et sur l'enveloppe de don, surtout, si vous mettez du liquide dedans, n'hésitez pas à mettre votre nom, votre adresse postale, pour que nous puissions vous envoyer un certificat fiscal pour votre don nominatif. En revanche, pour les chèques, c'est l'adresse et le nom qui figurent sur le chèque, qui est donc le nom retenu pour adresser le reçu fiscal. Voilà. Je vous invite aussi à ce geste généreux pour que cette Église continue à faire ses activités, à vivre de son Évangile. Merci.
Prions ensemble. Dieu notre Père, voici l'offrande que nous t'apportons. Celle de notre argent, bien sûr, mais surtout celle de notre temps, de notre solidarité, de notre fraternité,
une manière peut-être de dire tout ce que tu représentes dans notre vie. Nous te prions et nous voulons laisser de côté maintenant les images et les idées préconçues que nous pouvons avoir à ton sujet. Merci pour ta parole qui nous rejoint. Merci pour le baptême de Victor aujourd'hui, qui nous rappelle que ta grâce continue de se donner de génération en génération, et nous en sommes les témoins. Nous voulons te présenter toutes les personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison. Chacun à notre manière, nous te demandons de les bénir, de les garder, de les soutenir s'ils traversent une période difficile, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de la remise en question. Nous voulons remettre à ta grâce et à ton amour celles et ceux qui s'occupent aujourd'hui du repas pour les plus démunis que nous allons recevoir tout à l'heure. Nous te prions pour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de ta présence, de ton aide. Et nous te nommons chaque personne dans notre cœur. Nous te prions pour notre monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs et ses désordres. Nous te confions la situation de notre pays, mais aussi toute situation délicate en ce moment sur le plan international. Nous te demandons chacun à notre manière de nous fortifier dans les engagements que sont les nôtres et d'être participants au dialogue de paix et de justice afin que ton règne vienne, ton règne d'amour, afin que ta volonté se fasse, ta volonté d'amour. Oui, Seigneur notre Père, viens à notre aide et accorde-nous ta présence dans nos vies. Ensemble, nous allons te dire vraiment du fond du cœur et en toute sincérité, cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Dans les temps que sont les nôtres, que la joie de Noël rayonne dans notre cœur. Soyez heureux. Soyez heureux avec le pardon, car rien n'est aussi puissant pour renverser les situations et rétablir la paix au-delà des haines.
Soyez heureux avec le partage, car toute misère peut être vaincue. Soyez heureux avec la justice, car sans elle, il n'y a pas d'humanité supportable. Soyez heureux avec la tendresse. C'est l'unique soleil pour traverser les jours et les nuits. Alors, en ces jours de Noël, soyez heureux dans la paix les uns avec les autres.
Je vous invite à recevoir maintenant la bénédiction de la part de Dieu.
Allez proclamer la naissance d'un monde nouveau. Nelson Mandela disait « Parfois il incombe à une génération d'être grande. Il ne tient qu'à vous d'être celle-là. »
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Allez dans la paix de Noël.
Le registre.
Je vous laisse du travail. Alors par contre, est-ce que vous avez est-ce que quelqu'un a un stylo? Voilà. Ça va, Victor? Ça a été? Oui? C'était pas difficile?
Non. Va s'y.
Bonjour les enfants.